Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et il y a toujours de la pluie, Géraldine.
Oh oui, encore beaucoup de pluie et même des vigilances orange pour les crues sur la Gironde, sur la Charente-Maritime, même si c'est pas là qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, on a beaucoup de pluie entre la Normandie et les Alpes du Sud, hein, particulièrement du côté de la Provence, c'est là qu'on a les pluies les plus intenses. On va avoir beaucoup de pluie au nord de la Seine cet après-midi, des averses sur le reste de la moitié nord et quand même des éclaircies pour la moitié sud. Les températures, ça bouge pas beaucoup, on est quand même vraiment dans la douceur. Comptez 8 à 12 degrés sur la moitié nord cet après-midi, 12 à 16 degrés pour la moitié sud. Et on va continuer à avoir un défilé de perturbations dans les prochains jours.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trois questions dans l'actualité ce matin. Marine Le Pen a-t-elle été convaincante? Les réquisitions attendues dans l'après-midi au procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Emmanuel Macron va-t-il calmer définitivement la colère agricole? À l'approche du salon, le président dans une ferme de Haute-Saône ce matin. Et les policiers municipaux auront-ils bientôt plus de pouvoir? Un projet de loi du gouvernement en ce sens est examiné aujourd'hui au Sénat.
Nous sommes au matin d'une journée cruciale pour Marine Le Pen.
Oui, puisqu'après trois semaines d'audience, les réquisitions sont attendues en début d'après-midi au procès en appel des assistants parlementaires européens du FN. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice à RMC. L'enjeu pour Marine Le Pen qui joue son avenir politique, c'est d'obtenir des réquisitions moins lourdes que lors du premier procès.
Enfin, surtout en ce qui concerne l'inéligibilité, Marine Le Pen, qui continue de clamer son innocence, espère que le parquet général réclamera une peine plus légère que lors du premier procès, en tout cas d'une durée qui ne l'empêche pas de se présenter à la prochaine présidentielle. Mais en coulisses, Marine Le Pen et son entourage ont le sentiment que leur ligne de défense ne semble pas convaincre les magistrats de la cour d'appel. Certes, la chef de file du RN a reconnu qu'un délit a pu être commis et que des assistants parlementaires européens ont pu travailler pour le parti de manière résiduelle sans avoir eu conscience de commettre un délit selon elle. Pourtant, les indices matériels sont nombreux et les auditions peu convaincantes des autres prévenus laissent imaginer des réquisitions possiblement identiques à celles du premier procès.
Cette information, tiens, qu'on vient d'apprendre il y a seulement quelques minutes, l'acquittement du Français Tom Félix qui était en détention depuis 2 ans et demi maintenant pour trafic de stupéfiants en Malaisie, âgé de 34 ans, ancien cadre de Veolia, on en avait beaucoup parlé à l'époque, il contestait ses accusations, mais il risquait là-bas la peine de mort. Il a donc été acquitté au cours d'une audience ce matin. Ce sera une des images du jour. Emmanuel Macron à la ferme aujourd'hui. Le président retourne sur le terrain dans une exploitation agricole de Haute-Saône, près de Vesoul, à la rencontre donc des agriculteurs qui vont lui exprimer leur colère et que vous avez rencontré pour RMC, Thomas Becker.
Oui, Cédric Pi nettoie son étable pour préparer la venue du chef de l'État. Avec son frère, ils en sont aux toutes dernières préparations.
Le frère a voulu refaire plus propre, donc il a remis un coup de karcher aujourd'hui.
Ces deux producteurs laitiers auront droit ce matin à 15 minutes en privé avec le président. Alors Cédric veut absolument proposer une mesure à Emmanuel Macron.
La plus facile à prendre, c'est qu'il y aurait beaucoup moins d'administratifs. Parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'on se fait chier avec ces papiers? Qu'ils fassent de confiance à ceux qui sont sur le terrain.
Le président en Haute-Saône, alors que les éleveurs du département sont toujours traumatisés par l'épisode de dermatose, Olivier Mougin, encarté à la coordination rurale, le rappellera ce matin en personne au président.
C'est des animaux qu'on bichonne. C'est un petit peu comme si on venait tuer votre chien ou votre chat.
À une vingtaine de jours du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron va tenter de brosser les éleveurs dans le sens du poil. Mais la signature de l'accord sur le Mercosur ne passe toujours pas.
Il pourrait peut-être inviter des paysans brésiliens qui déforestent des milliers d'hectares pour faire du maïs.
Pour la première fois, Olivier n'ira pas au salon de l'agriculture à la fin du mois.
La France, et c'est une info, la France a un budget ce matin. Après des mois de feuilleton, le projet de loi de finances qui est définitivement adopté depuis hier soir, le rejet des deux dernières motions de censure. On verra ce qu'en dit le ministre de l'économie Roland Lescure tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Le premier ministre Sébastien Lecornu salue lui un compromis parlementaire. Alors ça a monopolisé les débats, va y avoir de la place pour autre chose. Maintenant le gouvernement réfléchit d'ailleurs à doubler la contribution des voyageurs dans les tarifs des transports du quotidien. On parle là des métros, des RER, des TER aussi, en fait, tous les transports qui sont gérés par les régions, les communes, au nom du financement du rail. C'est une info RMC qu'on vous révèle ce matin. Il en sera question la semaine prochaine en Conseil des ministres. Ça, c'est un texte qui arrive aujourd'hui au Sénat. le projet de loi du gouvernement pour donner plus de pouvoir aux policiers municipaux. Sur autorisation du maire, le gouvernement aimerait aller vite avec ce texte, le faire passer avant les élections municipales. Julien Adel, avec Pierre Borges à Pessac, près de Bordeaux, pour RMC. De quel pouvoir en plus parle-t-on pour les policiers municipaux ?
Au moins 9 infractions pourraient être constatées par les agents, dont le vol, l'outrage sexiste et sexuel ou encore l'usage de stupéfiants. De quoi faciliter le travail de Richard Maffre, chef de la police municipale de Pessac.
J'ai en tête un jeune qui fumait du produit stupéfiant, l'a contrôlé, appel à la police nationale, le temps qu'ils arrivent sur place, on a perdu un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, ça permet de réagir immédiatement sans avoir à attendre la police nationale.
Le texte prévoit aussi que les agents puissent procéder à des fouilles de véhicules ou utiliser des drones sur autorisation du maire, mais seulement dans certains cas, un renforcement des prérogatives salué par ses habitants.
Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas forcément d'attente entre le délit et la sanction, ça peut être quelque chose d'intéressant.
Je trouve que c'est une bonne chose, en fait, déjà rien que pour renforcer le sentiment de sécurité des habitants.
Mais cela ne convainc pas Marie, qui craint des abus.
Ce serait augmenter des problématiques d'abus de ce pouvoir. J'ai peur que ce soit mal utilisé. Ça rajouterait le nombre de personnes qui pourraient intervenir injustement. C'est plutôt ça qui me fait peur.
La formation des policiers serait, elle aussi, modernisée si ce projet de loi est adopté.
Et alors pendant ce temps, c'est l'intelligence artificielle qui n'en finit plus de gagner du terrain et même de remplacer les humains. C'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Il y a déjà les secteurs qui sont montés au créneau pour alerter mannequins, graphistes, traducteurs. Et ce matin, Romain Hoc, vous allez nous expliquer pour RMC, ce sont des comédiens qui attaquent deux sociétés américaines d'intelligence artificielle pour qu'elles arrêtent de reproduire leur voix.
Oui, des comédiens de doublage précisément, leur voix, les voix françaises de Julia Roberts, Angelina Jolie, Richard Gere et même de personnages de dessins animés comme Buzz l'éclair ou Cartman de South Park, autant de voix auxquelles il est possible de faire dire tout et n'importe quoi. Il suffit de souscrire à un abonnement payant, d'écrire un texte et de le faire lire à la personnalité choisie dans un catalogue de milliers de voix connues, parmi lesquelles donc celle de ces comédiens qui n'ont jamais donné leur accord, encore moins été rémunérés. Françoise Cadol, par exemple, la voix française d'Angelina Jolie, l'a découverte d'elle-même sidérée. Elle fait partie de ces 8 comédiens qui mettent en demeure ces plateformes. Dans un courrier envoyé il y a quelques jours, ils somment 2 sites internet de retirer leur voix sous 8 jours et réclament 20 000 euros de dommages et intérêts, sans quoi eh bien, ils se tourneront vers la justice pour faire respecter leurs droits d'auteur.
Je vous signale qu'il y a encore un risque d'avalanche élevé à la montagne avec la neige qui tombe en ce moment, niveau 4 sur 5, notamment dans les Alpes du Sud et dans l'Ouest, une partie des quais dégagés des voitures à Bordeaux avec les risques de crues au bord de la pleine mer en Gironde et en Charente-Maritime. Tiens, on va vivre en football, on va vivre une soirée de Coupe de France ce soir sur RMC avec les deux premiers huitièmes de finale de cette compétition, Reims contre Le Mans à 20h30 et Marseille contre Rennes à 21h10. Marseille où il y a comme un parfum de crise depuis l'élimination en Ligue des Champions, Florent Germain.
Oui, le Vélodrome a le cœur lourd. L'élimination de la Ligue des Champions et les difficultés en championnat ont contrarié les amoureux de l'OM. Mais ce match contre Rennes doit permettre à Marseille de rêver d'un trophée en Coupe de France. L'entraîneur Roberto De Zerbi comprend l'amertume des supporters.
On est en tort, il faut se faire pardonner. Le Vélodrome est comme un miroir, quand tu donnes tout, tu reçois. Si tu n'es pas bon, la fronde revient comme un boomerang. Il faudra être prêt et réagir, même s'il y a des sifflets.
Avec son staff, les joueurs et les dirigeants de Zerbi a rencontré les fans de l'OM hier soir. La réunion s'est déroulée dans le calme et sans aucune tension. Les supporters ne siffleront pas leur équipe, promet Catherine, une fidèle du Vélodrome.
Jamais je sifflerai mon équipe, vraiment. Si je vais au Vélodrome, je suis à fond derrière mon équipe. De toute façon, en 60 ans, j'ai tout vécu, les victoires, les défaites. Et je sais que c'est pas les insultants que ça fait marcher les choses, parce que c'est mon OM que j'ai dans le cœur.
Les joueurs n'échapperont peut-être pas à quelques banderoles, mais c'est plutôt l'union sacrée qui devrait l'emporter. Le plus grand pardon pour l'OM sera forcément de battre Rennes.
Et puis on va connaître dans la journée la composition des Bleus du rugby pour le match d'ouverture du tournoi Destination jeudi contre l'Irlande avec vraisemblablement le Bordelais Mathieu Jalibert à l'ouverture.
C'était le journal de Quentin Vinet, les 8h09, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour à tous.
Emmanuel, face à Mastercard et à Visa, l'Europe veut regagner de l'indépendance dans la gestion des moyens de paiement pour ne pas risquer un jour que les États-Unis nous coupent tout simplement le système.
Exactement. Hein. Aujourd'hui, quand nous, Français, payons avec notre carte bancaire, plus de 6 transactions sur 10 sont gérées par ces systèmes américains que sont Visa et Mastercard. Et dans certains pays européens, c'est même quasiment 100% puisque certains de nos voisins n'ont pas de réseau national. En France, il y a encore la simple carte bancaire, mais ça ne permet pas de payer à l'étranger. Vous voyez cette petite carte là que j'ai entre les mains, eh bien c'est ça, c'est le logo CB. Donc ça, c'est géré par les Français, mais c'est purement national. Et évidemment, bah Mastercard et Visa, ils ont pris l'ascendant, parce que quand vous avez une carte que vous payez un peu plus cher, certes, mais que vous pouvez l'utiliser à l'international, et ben
mais
c'est beaucoup plus.
Mais comment on fait, il faut demander à sa banque, c'est avoir beaucoup, une CB plutôt
c'est beaucoup plus. Ah bah quand votre banque vous propose effectivement des solutions de paiement, vous pouvez choisir la simple carte bancaire qui vous coûte le moins. Après vous avez une carte bancaire un peu plus chère si vous voulez un réseau international, Visa ou Mastercard.
Avec CB, vous pouvez pas payer à l'international.
Ah non, avec CB, on peut pas payer à l'international du tout, et donc c'est une des dépendances européennes les plus importantes et les plus préoccupantes. Effectivement, on a déjà eu l'expérience avec la Russie par exemple, hein, en 2014 et 2022, eh bien, les Américains ont décidé de bloquer les transactions. Eh bien, les banques russes et Moscou ont créé leur propre réseau national qui s'appelle MIR.
Face à cette dépendance, l'Europe s'organise.
Oui, deux initiatives sont en cours de déploiement. Le système de paiement instantané Wiro et l'euro numérique. Wiro, c'est une solution de paiement numérique. C'est la fusion de plusieurs projets européens qui permet, en gros, d'envoyer et de recevoir de l'argent directement entre comptes bancaires, sans passer par un réseau de cartes. L'application a commencé à être déployée auprès du grand public en 2024, d'abord pour les paiements entre particuliers en France, en Allemagne, en Belgique. L'usage se développe assez rapidement dans le e-commerce, mais vraiment, le juge de paix, ce sera est-ce que les magasins s'empareront vraiment de ce moyen de paiement. C'est là que se jouera la crédibilité du projet.
Et l'autre projet, l'e-euro ?
Oui, alors l'e-euro, c'est une monnaie qui est émise par la Banque Centrale Européenne, exactement comme les pièces, les billets, mais dématérialisée. Chacun aura un portefeuille numérique via sa banque ou via une application publique sur votre portable. Vous pourrez payer en magasin, en ligne, entre particuliers. C'est exactement comme une crypto-monnaie, c'est exactement comme le Bitcoin. Il n'y a pas d'intermédiaire, mais vous bénéficiez de la solidité d'une monnaie officielle. En gros, c'est un concurrent public à Visa, à Mastercard, à Apple Pay ou Google Pay.
Donc il y a un réveil.
Donc il y a un réveil. On est aujourd'hui dans une phase de préparation. Disons que pas de lancement généralisé avant 2027 ou 2028.
Merci Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange va nous rejoindre. Et puis à 8h25, notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera le ministre de l'économie, Roland Lescure, au lendemain de l'adoption, enfin, de ce budget. Et puis juste après, il y a Nicolas Canteloup et ses imitations tous les jours. Nicolas Canteloup, c'est à 8h50 sur RMC. À tout de suite, 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours.
C'est tous les jours qu'il est avec nous pour notre plus grand plaisir.
Ah oui, votre dose de rire ce matin.
Bonjour Arnaud.
Bonjour tout le monde. Les amis, ce matin, avant de vous parler d'actu, j'ai envie de vous faire du bien. J'ai envie de vous donner un petit parfum de vacances. On part à la plage. Pascal, prenez votre maillot, tout le monde. Car le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio...
Il y a un truc qui ne va pas dans votre phrase.
Non, mais non, c'était juste histoire d'aller à la plage. C'est pour vous parler de cette actu. Le candidat RN à la mairie de Marseille, Franck Alizio, propose d'interdire certaines plages aux jeunes à certains créneaux horaires. Alors là, Jean-Marc Morandini est très remonté. J'ai écouté l'émission, il disait « Et ce matin, dans Morandini Live, on va critiquer pour la première fois le RN dans cette émission avec la décision révoltante de Franck Alizio, parce qu'on interdit tout aux jeunes, les trains, les restaurants, les plages, pourquoi pas les saunas naturistes, les backrooms et la fistinière. » Alors vraiment, on en parle avec mes invités, le cardinal Barbarin, Gabriel Badenef et Théo. Bonjour Théo, assieds-toi. J'imagine que parfois tu aimes te mettre en maillot de bain. Tu peux nous montrer ? Alors, pas de jeunes, voilà. Non. C'est plus une plage, là, c'est le Conseil constitutionnel. On va s'emmerder sur une plage sans jeunes. Même si ça existe déjà à La Baule, à Nice. Mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas de jeunes tout court dans la ville.
C'est pas qu'ils sont interdits.
Non, il y a des baigneurs oranges avec des poils blancs sur le torse, en mini-slip brillant, qui avancent prudemment sur les galets pour essayer de ne pas se péter le col du fémur avec leur femme qui leur dit « Oh, Valentin, tu fais un burn-out !» Non, Pauline, hein, c'est pas possible, je suis à la retraite depuis 30 ans.
Si, si, regarde ton slip, il y a la droite qui dépasse.
Oh non.
Enfin bref.
Comment je ne l'ai pas vu venir?
Non, enfin, elle était tellement évidente. Puis c'est un classique en plus. Hein. Enfin bref, c'est sûr que le plus gros problème à Marseille, c'est les plages, c'est pas le narcotrafic. Au trafic, non. La pauvreté, ou pire encore, le niveau de jeu de l'OM. Ça ne va pas du tout, les gars. Alors, la vraie raison, c'est bien sûr que Franck Alizio veut interdire les plages aux racailles pour que les autres gens soient tranquilles. Mais comme il ne peut pas dire je veux pas d'arabe, il dit jeune. Voilà. Puis en plus, il m'a dit, en plus, tu mets des arabes sur une plage, mais ça attire les migrants de l'autre côté, donc on n'en finit pas, parce qu'ils veulent se rejoindre. Ils pensent à tout.
Oh là là. Jack Lang est plusieurs fois cité, donc, dans ses documents relatifs à l'affaire Epstein. Il a déclaré assumer ses liens passés avec le financier américain.
Oui, alors ça, je voulais le faire, le sujet, parce que je vous ai entendu dans le couloir tout à l'heure dire à tout le monde, mais c'est dingue, mais t'as vu les articles? Oh, c'est fou, non? T'as vu cette affaire? Jack Lang est encore vivant! Eh oui, Jack Lang dans les dossiers Epstein.
Qui aurait pu prédire?
Je suis comme vous, je suis ébobie. Autant Jacques Delors, on n'aurait pas été surpris. Hein, cette petite allumeuse de Raymond Barre, on l'aurait vu venir. Baladure, la chaudasse, là, on l'aurait vu. Ça.
Oh, je suis une chaudière.
Moi aussi. Ouf, ouf, ouf. Plagelle-moi avec des poireaux.
Mais oh là là, mais t'as encore Raymond Barre.
Mais non, mais
ce petit dialogue baladure Raymond Barre.
Un petit parfum années 80, quoi. Allez, ouais. On est jeunes. Mais Jack Lang.
Non.
Jack, pas maintenant, Jack, pas toi. Pas après tout ce que tu as fait. Alors, dans le communiqué de Jack Lang à l'AFP, l'ancien ministre de la Culture précise « C'est Woody Allen qui m'a présenté Jeffrey Epstein ». Woody Allen, quoi. Il y avait quand même un petit indice. Mr. Lang, je vous présente ma femme, qui est aussi ma fille, et mon meilleur pote, Jeffrey, qui va nous emmener à bord du Lolita Express sur l'île du plaisir. Oh, merveilleux. Enchanté. Monsieur Lang, vous avez des préservatifs? Pas besoin, je suis déjà tout en plastique. Il y en a un qui doit avoir le seum là-dedans, c'est DSK. D'ailleurs, c'est la honte. C'est le seul homme blanc riche et puissant de sa génération qui n'est pas sur les listes. Il n'est pas invité. Ouh, le loser. C'est pour ça qu'il allait dans des clubs glauques à la frontière belge là, avec Dodo la Saumure et deux, trois vieilles travailleuses du sexe, flamandes et édentées. C'est parce qu'il n'était pas sur le Lolita Express, il n'avait pas le droit. Si ça se trouve, il était sur la liste noire du prédateur sexuel. Jeffrey, il disait « Ah non, pas DSK, trop obsédé, c'est un taré lui, on va avoir des emmerdes, j'en veux pas. »
Donald Trump parle d'annexer le Canada.
Oui, il faudra en parler à votre invité Roland Lescure, qui est
franco-canadien. Voilà, on va dire comme ça.
Faudra en parler au monsieur canadien de votre émission de 9h à 10h. Il est là, il est dans les studios. Salut, monsieur canadien. Le Canada, il faudrait que vous rejoigniez l'Union européenne. Oui. Allez, qu'on vous foute la paix aux États-Unis. Venez, les Canadiens. On vous aime bien, même si vous nous avez envoyé Garou et Rogue Voisine. et que vous avez votre dialecte bizarre, là. J'ai un Emma blonde à grosse doudoune dans mon char, au style calice. Pour nous, c'est opaque, mais ça a l'air sympa. Ils défendent la langue française. D'ailleurs, tu sais que tous les titres de films sont traduits de façon littérale au Canada, ça m'a toujours fasciné. Et c'est l'occasion d'un petit quiz.
Oui.
Je vous ai fait une liste de titres québécois de films. Vous devez trouver de quel film il s'agit en français. Okay. C'est des vrais titres français et québécois. Attention, c'est parti. Mauvais garçon.
Bad boy.
Bien vu.
Oui, bien.
Les bagnoles.
Cars,
ouais. Brillantine.
Golden.
C'est pas facile. Grease.
Mais non, Grease.
Brillantine. La cloche et l'idiot.
Alors ça, je ne sais pas.
Belle and the
Fool. Non, c'est Dumb and Dumber.
Dumb and Dumber.
Le commando des bâtards.
Qu'est-ce que ça, dis donc.
Oh, celui-là, il est trouvable.
Inglorious Inglorious.
Ah oui, bien sûr, les bâtards.
Suspect de convenance.
Usual
suspect. Fiction pulpeuse.
Ah bah, Pulp Fiction.
Chauffeur de taxi.
Ah oh bah, Taxi driver. Mais ça fait moins bien, c'est vrai.
Et attention,
de taxi.
La dernière, elle est pas facile. Danse lascive.
Dirty Dancing.
Bravo,
Mathieu.
Très bon.
Tu as gagné.
Vous avez gagné la nationalité québécoise.
Merci, Arnaud. Arnaud, qu'on retrouve aussi en podcast et en tournée partout en France avec un nouveau spectacle à Biarritz, à Creuswald, à Tours, à Épinal, à Bordeaux ou à Montpellier. Un spectacle RMC. Il est.
Détendez-vous sur RMC avec Sup de Com, une école du réseau compétences et développement.
C'est Roland Lescure, le ministre de l'économie. Ça y est, la France a un budget. C'est officiel depuis hier soir 20h. Depuis hier soir 20h, la France a donc un budget. Quelles conséquences dans notre vie? Le ministre de l'économie répond à mes questions dans un instant. Ce sera à 8h30, mais pour l'heure, il est 8h22.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro matin pour répondre à mes questions. Vous êtes le ministre de l'économie. Il y a eu 3, 49, 3, il y a eu 6 motions de censure. Mais ça y est, c'est officiel depuis hier soir 20h. La France a un budget. Alors heureux.
Heureux non, mais satisfait qu'on ait passé cette première étape importante. Ça permet d'avoir un budget. D'un budget qui va réduire le déficit public de 5,4 à 5 cette année, mais aussi et surtout de financer des politiques publiques. La défense, on en a beaucoup parlé, mais on peut financer les associations, pour lesquelles il y avait un risque évidemment en loi spéciale. On va augmenter les rémunérations de 3 millions de Français de 50 euros. Donc bref, on entre en 2026, j'allais dire enfin, on est en février, il était temps, avec un budget qui tourne, une France qui tourne, et surtout beaucoup de travail pour continuer à la développer.
Oui, on va parler d'ailleurs de la suite, mais quand vous dites ça y est, un budget, est-ce que vous considérez franchement que c'est un bon budget?
Oui.
Oui. Mais vous, macroniste de la première heure.
Mais oui, parce que je suis un macroniste de la première heure qui est conscient de la situation politique à laquelle on fait face. On est face à une Assemblée nationale extrêmement éclatée avec 11 groupes parlementaires, 8 qui ont décidé de jouer le jeu pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, seulement 5 qui au fond ont décidé de jouer le jeu sur le budget. Donc ce budget, on a vu l'extrême droite qui le qualifiait d'extrême gauche, l'extrême gauche qui le qualifiait d'extrême droite. Au fond, il est ni l'un ni l'autre. C'est un budget de compromis qui permet d'avancer et qui, au total, moi, c'est l'essentiel, permet de préserver la croissance. On a eu plutôt des bonnes nouvelles pour 2025. Je pense qu'on en aura, je l'espère.
Disons en tout cas qu'on a pas eu les mauvaises nouvelles que vous redoutiez.
Non. On s'attendait à 0,7% de croissance. L'INSEE l'a dit il y a 3 jours, 0,9. Ça, c'était l'année dernière. Nous, on espère 1% cette année. On est bien parti. C'est-à-dire que déjà à la fin de l'année 2025, on a embarqué, si je puis dire, 0,5% de croissance. Donc il faut faire 0,5 de plus, on a une année pour le faire. Moi j'ai confiance dans les entreprises qui ont continué à investir l'année dernière, malgré tout ce qu'on a dit, qui se sont remises à exporter, c'est important dans un monde bouleversé, et même les consommateurs...
Vous avez confiance dans les entreprises, mais les entreprises n'ont plus confiance en vous.
Écoutez, moi je regarde ce qu'elles font. J'écoute ce qu'elles disent, évidemment.
Vous avez entendu Bernard Arnault, quand même emblématique patron français, qui dit que désormais la France est contre les entreprises.
Ben, je suis contre ce qu'il vient de dire. Je suis contre ça. Moi, je suis pour les entreprises. Je souhaite les accompagner. Mais face à un risque d'instabilité politique qui était réel et face à un déficit public qui était trop élevé, on a trouver un compromis qui permet d'avancer, enfin, qui permet de donner de la stabilité.
Sur leur dos quand même, non?
Non,
c'est tout cas comme ça qu'ils le vivent.
Oui,
vous l'avez même vu, le MEDEF, ça ne suffit plus. Il rajoute désormais une nouvelle organisation de patrons combatifs. Ça s'appelle Trop, c'est trop.
Et je les ai rencontrés. Et qu'est-ce que je leur ai dit, moi? Je leur ai dit, un, la stabilité politique, elle a une valeur. Donc, intégrez-la. Et deux, j'allais dire, plutôt que de râler, engagez-vous. J'ai entendu qu'il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui voulaient tous être président de la République. Mmh. Ils ne le sont pas tous, mais que des chefs d'entreprise s'engagent dans la chose publique en proposant des idées, moi je l'ai fait. J'ai été dans le milieu des affaires pendant des années, j'ai décidé de tout lâcher, de traverser l'océan pour revenir en France, laisser un océan entre moi et ma famille pour m'engager en politique. Engagez-vous, rengagez-vous, donnez-nous des idées.
C'est une bonne nouvelle que les patrons, et pourquoi pas, vous pourriez même soutenir, je sais pas, une candidature d'un Michel-Édouard Leclerc, d'un Xavier Niel.
Ouais, je pense qu'on meurt en France, du fait que la présidentielle est la rencontre, comme on dit, d'un homme et d'un peuple. Ça pourrait être une femme d'ailleurs. La réalité, et je pense qu'Emmanuel Macron avait réussi à faire ça en 2017, c'est que c'est aussi la rencontre d'une équipe de gens qui s'engagent sur un programme, sur une démarche. Moi, je l'ai fait en 2017, et j'espère que d'autres vont le faire en 2027, parce que les défis sont énormes.
Donc vous dites au patron, allez-y,
engagez-vous,
venez en politique.
Mais bien sûr, moi je le regrette pas. Puis j'aurais fait mon temps à d'autres.
Moi, je veux bien. Là, vous leur dites, vous êtes super et tout ça. Mais enfin, la vérité, c'est qu'ils continuent quand même à vous dire trop, c'est trop, et que dans ce compromis, comme vous dites, c'est les impôts sur les entreprises qui ont le plus augmenté. Vous dites, il n'y a pas d'impôt sur les particuliers. C'est d'ailleurs
pas complètement vrai. Et sur les entreprises, ils n'augmentent pas. Les entreprises, les grandes entreprises, les fameuses, celles qui gagnent de l'argent à l'international et qui, c'est vrai, ont contribué en 2025 au rétablissement des comptes publics, taxes proposé par Michel Barnier et adopté par François Bayrou. On les maintient au niveau où elles étaient l'année dernière pour les très grandes entreprises.
Oui, parce que vous leur aviez promis, la main sur le cœur, que ça ne durerait qu'un an.
Je vais pas...
Comment on peut vous croire maintenant?
Faire l'histoire, je n'ai rien promis.
C'est
le gouvernement, mais je veux quand même... Et on est
vous n'auriez pas promis, vous pensiez déjà l'année dernière.
En tout cas, ce que je peux vous dire cette année, c'est que avant de m'engager à des promesses que je ne saurais peut-être pas tenir, je souhaite parler de la méthode. Et avec les groupes dont je parlais tout à l'heure qui ont souhaité adopter un compromis, je souhaite qu'on parle de méthode avant de s'engager sur telle ou telle mesure, parce que face à une assemblée dispersée, il faut savoir tenir.
Je vais vous reposer la question, Roland Lescure. Cette contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, qui avait donc été mise en 2025 en promettant que ça ne durerait qu'un an, qui cette année a finalement été prolongée, elle a toujours dans son titre le mot exceptionnel. Mais est-ce que ce matin, Roland Lescure, vous pouvez nous dire l'an prochain on le fait plus ?
Non, je peux pas vous dire ça. Je peux dire que j'aimerais qu'on y arrive, mais que tout ça va dépendre d'un équilibre global et d'un budget global qu'il va falloir négocier.
Donc le bon vieux temps se préparer à l'idée que cette contribution exceptionnelle dure au-delà de 2 ans, peut-être 3.
Non, les patrons doivent se préparer au fait que ce budget, on va le construire en avançant, et pas un gouvernement tout puissant, majoritaire, comme ça a été le cas depuis 80 ans, qui dit en janvier ce qu'il va faire en décembre prochain. On va devoir travailler. Moi, je souhaite travailler à la méthode, et évidemment, je souhaite qu'on limite les prélèvements sur les entreprises. Je suis ministre de l'économie et des finances, mais je souhaite aussi qu'on continue à réduire le déficit, et tout ça va falloir équilibrer.
Réduire le déficit, une question très précise, vous avez redit les 5%, mais moi je lis dans les mots d'Amélie de Montchalin, la ministre du budget, ce matin chez mes confrères du Parisien, cette phrase: ce budget 2026 va réduire de 0,6 point de PIB notre déficit, et là elle rajoute virgule, hors charge de la dette. Alors moi, ça m'étonne toujours quand on met une petite astérix. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce que vraiment on va repasser sous la barre des 5% ou est-ce qu'il y a une entourloupe ?
Non, il n'y a pas d'entourloupe. On était à 5,4 l'année dernière et on sera à 5 cette année. Donc c'est 0,4%. Et ce qu'elle dit, c'est que ce 0,4% de vraie réduction de déficit, elle va se faire malgré une hausse de la charge de la dette. Donc la vraie réduction qu'on va devoir vivre, vous et moi, c'est plutôt 0,6. C'est un calcul, j'allais dire, comptable.
Mais on repasse qu'il faut retenir, sous les 5%, c'est que l'objectif, c'est sûr.
C'est sûr. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, on s'était donné 5,4%, on l'a tenu. Et cette année, on se donne 5%. Et on va tout faire pour le tenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pratique, on va faire ce qu'on appelle un comité de suivi et d'alerte. Donc, tous les mois, on va rassembler les parlementaires, leur rendre des comptes sur le budget. On va suivre les budgets de tous les ministères, de tous nos collègues, euro après euro, de manière à ce que ce qu'on a promis, on le livre. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est qu'on l'a livré l'année dernière.
Roland Lescure, le Conseil constitutionnel a été saisi, notamment parce que malgré tout ce budget, c'est un peu un patchwork d'amendements qui parfois sont disparates. Est-ce que vous vous dites, il y a quelques amendements qui pourraient tiquer et qui pourraient être rejetés par le Conseil constitutionnel?
Non, on verra ce que le Conseil constitutionnel décide, mais moi je suis assez confiant sur le fait que ce budget, il tient debout. Et il va faire en sorte que la France, elle aussi, se tienne debout.
Pour vous, ça tient debout. Une question aussi, d'ailleurs on en parlait à l'instant sur BFM TV et sur RMC, la question du prix des transports en commun. Une loi cadre serait présentée la semaine prochaine en Conseil des ministres. C'est ce qui ressort de certaines informations du ministère des Transports, qui dirait que les tarifs des transports en commun, qui sont aujourd'hui une convention décidée par les régions et les communes, sont trop bas, qu'en gros, en fait, quand on achète un ticket de métro, c'est plus des tickets ou un Navigo, ou ailleurs, partout en France pour les bus et les transports en commun, en fait, on paye, l'usager paye trop peu. Est-ce que vous allez, en effet, demander aux Français de payer davantage ?
Non. Ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est que les transports publics en France sont subventionnés. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que les transports publics, ils sont plus développés en France qu'ailleurs dans le monde, et que ça permet à la fois de décongestionner, moins de circulation, de dépolluer, moins de pollution. Et ça, c'est tant mieux. Et ce modèle français, on va le poursuivre. Ce qui est vrai aussi, c'est que dans les années qui viennent, il va falloir financer de nouveaux investissements et qu'il faudra réfléchir à la manière dont on les invente, dont on les finance. Mais non, il n'y a aucun plan, ni caché, ni ouvert, de doubler, j'ai lu, enfin, j'ai entendu sur votre antenne, de doubler le prix des transports pour les usagers, pardon. C'est non.
C'est non.
C'est non.
Doubler, c'est non. Augmenter?
Non. On va voir comment on finance les investissements des transports à venir, mais il n'y a aucun plan caché d'augmenter le prix des transports aujourd'hui.
Au moins, c'est très clair dans votre bouche, Roland Lescure, ministre de l'économie. Ce qui est vrai quand même, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une petite tentation, simplement de récupérer quand même un peu de sous, au fur et à mesure de cette discussion budgétaire, là encore ce matin peut-être sur la question du prix des transports en commun, finalement vous y avez renoncé. Je regardais tout ce qui faisait débat, vous y avez renoncé. Le doublement des franchises qui devait permettre d'économiser 2,3 milliards d'euros, vous y avez renoncé. Le gel des prestations sociales qui devait permettre d'économiser 3,6 milliards, renoncé. L'année blanche qui avait été évoquée par François Bayrou, qui permettait au fait aux barèmes et aux aides de rester fixes et donc pas indexées sur l'inflation, là aussi vous y avez renoncé. Moi je veux bien, mais ça veut dire quand même qu'à un moment elles seront où là les économies ?
Ça veut dire que quand vous êtes face à l'Assemblée à laquelle on fait face, vous devez dégager une majorité pour faire adopter des mesures. Et vous l'avez dit, il n'y avait pas de majorité pour adopter ces mesures d'économie qui étaient dans le budget. Donc on avait proposé. Donc tant que, effectivement, on n'est pas capable d'avoir des groupes parlementaires qui disent, bah, l'année blanche, finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. L'inflation est quasiment réduite à zéro aujourd'hui. On va pas indexer telle ou telle prestation. On n'y arrivera pas. Il faut une majorité à l'Assemblée pour faire adopter les mesures. C'est la démocratie. Et il n'y avait pas de majorité pour celle-là. On a dû en trouver d'autres.
Vous êtes dans le collimateur du RN qui vous reproche quasiment d'avoir joué contre la France. Jean-Philippe Tanguy dit à propos de la vente de LMB Aerospace à des Américains, Monsieur Lescure et la Macronie ont des liens de soumission aux intérêts financiers américains.
Vous vous rendez compte ? Jusqu'à samedi, il y a eu des débats de fond sur un certain nombre d'entreprises qui ont été vendues avec des conditions d'ailleurs extrêmement strictes qu'on a mis en place. Une entreprise qui fait des ventilateurs pour des moteurs de rafale. Le débat était sur le fond. Et puis, maintenant que le débat sur le fond a été perdu par mécontenteurs, vous avez raison, maintenant il se décale.
Enfin, il vous reproche à vous personnellement, et on le sent bien, il y a aussi l'idée que vous avez la double nationalité, comme vous l'avez dit, vous êtes canadien. Est-ce que c'est ça qu'il y a derrière ces reproches ?
Je ne sais pas ce qu'on me reproche. Moi, ce que je sais, c'est ceux qui me reprochent ça sont des gens qui étaient financés par la Russie de Vladimir Poutine jusqu'à ce que nous, on interdise le financement par des partis étrangers. Monsieur Bardella, vous savez ce qu'il disait il y a un an, quand Monsieur Trump a été investi, un vent de liberté souffle sur l'Amérique et nous ferons souffler le même vent en France. Qui se précipitait à l'investiture de Donald Trump il y a un an, presque jour pour jour ? Louis Alliot, sans doute pour le bien de Perpignan, ou leur ami Sarah Knafo, qui est sur le même terrain. Aujourd'hui, on a des gens qui ont des intérêts aux États-Unis, qui ont visiblement des connivences avec une certaine partie du pouvoir américain, et qui viennent me reprocher des liens avec les États-Unis, que je n'ai pas, vous l'avez dit, j'étais Canadien. Qu'est-ce qu'on me reproche ? D'avoir passé 8 ans de ma vie, j'ai bientôt 60 ans, au Canada, d'avoir la double nationalité ? Une polémique habituelle de la part de l'extrême droite, qui n'aime pas les binationaux. Alors, Canadiens, déjà pas beaucoup, quand ils sont franco-algériens, franco-marocains, franco-tunisiens. On est effectivement dans une polémique dégueulasse, qui cherche à décrédibiliser un ministre, qui, je le rappelle, a tout abandonné, je le disais tout à l'heure, pour rejoindre Emmanuel Macron en 2017, qui a mis un océan entre lui et sa famille pour s'engager, qui est très heureux de l'avoir fait, et qui n'a de procès en souveraineté ou en intégrité à recevoir de personne. Surtout, et je finis là-dessus, d'un parti qui, la dernière fois que j'ai vérifié, était poursuivi en justice pour détournement de fonds publics. Franchement, pas de leçon, c'est dégueulasse.
Je vous sens, à la fois en colère et atteint.
Oui, parce que, si vous voulez, je pense que j'ai fait tout ça pour des raisons assez personnelles, liées aussi à mon histoire personnelle, et que s'engager pour l'intérêt général, ça mérite tous les débats de fond. Et moi, je suis prêt à avoir tous les débats de fond sur la fameuse procédure investissement étranger en France, mais pas de débat personnel sur mon intégrité, ça je ne le laisserai pas le faire, je ne laisserai pas m'abîmer, et je ne laisserai pas, au-delà d'abîmer ma personne, abîmer ma fonction, parce qu'évidemment c'est ce qu'ils cherchent derrière moi.
Je vous repose la question malgré tout sur le fond, Roland Lescure. Avez-vous des garanties suffisantes pour que, un jour, peut-être, nous ne nous retrouvions pas dans une situation où un élément constitutif du Rafale nous manque ?
Mais bien sûr. Et sinon, vous pensez bien qu'on aurait trouvé un acheteur français d'ailleurs. J'imagine que Dassault l'aurait acheté, cette petite boîte de Corrèze qui produit des ventilateurs de moteurs pour les Rafales. Évidemment, on a mis dans l'accord, sans aucune limitation de durée, la fourniture des pièces de rechange pour les Rafales et d'autres avions militaires.
Oui, mais vous voyez
militaires.
Bien dans la période dans laquelle on est, quand on voit que par exemple le Danemark ou la Norvège ont acheté du matériel américain et qu'aujourd'hui ils se bien disent si un jour on doit se défendre contre les Américains, ces fameuses règles aussi qui avaient été imposées à ce moment-là par les fournisseurs, c'est-à-dire américains, pourraient se retourner contre eux.
On parle d'un fournisseur qui va rester installé en France. Ça aussi, on la met dans les conditions. On a une action de préférence, une fameuse golden share qui permet de limiter toute transaction de cette entreprise. Elle va rester en France, elle va produire en France 20%. Le reste est exporté de France, de Corrèze, dans le monde entier. On a une entreprise qui rayonne, qui brille, qui cherche à se financer, qui ne trouve pas de financeurs français. Et le vrai problème, il est là. Comment on fait en sorte qu'on ait des capitaux français et européens pour financer nos pépites ? Elles ne l'ont pas trouvé.
Pourquoi on en exclure la suite maintenant que le budget est adopté? Plusieurs questions. Une d'abord sur la loi pluriannuelle de l'énergie. Quelles conséquences et quand?
Alors, il faut développer notre puissance énergétique. Nos prédécesseurs l'ont fait il y a 50 ans. Si on a aujourd'hui les réacteurs nucléaires...
Je vous arrête un instant, Roland Lescure, parce que sur BFM TV, ceux qui nous regardent voient à l'image l'arrivée de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui arrive donc au tribunal à Paris. Vous l'évoquiez d'ailleurs à l'instant, Roland Lescure. Le sort judiciaire donc de Marine Le Pen, c'est la journée cruciale, puisqu'elle assistera ce matin à la plaidoirie de la partie civile, c'est-à-dire du Parlement européen, avant d'entendre les réquisitions du parquet général. Donc vous l'avez vu, Marine Le Pen qui vient donc d'arriver au tribunal. J'entendais d'ailleurs à l'instant, mais je vais vous réinterroger évidemment sur le budget, mais j'entendais à l'instant que vous considérez que ce procès-là, cette question quand même d'un détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens, c'est tout sauf anodin. Hein.
C'est plus sérieux que des insinuations à 2 euros dont je fais l'objet de la part de messieurs Tanguy et Bardella. Oui, c'est du sérieux. Après, la justice fera son travail et on verra ce qu'elle décidera.
Roland Lescure, vous me parliez à l'instant de la loi pluriannuelle de l'énergie. Quelles conséquences et surtout, qu'est-ce que vous allez mettre comme jauge dedans de la part du nucléaire, du reste, et quelles conséquences sur le prix de l'électricité?
Alors, l'objectif, il est que, non pas seulement dans les 10 mois qui viennent, mais dans les 30 ans qui viennent, on ait d'électricité décarbonée, en volume et pas cher, en France. Si on en a aujourd'hui, si on a de l'électricité moins chère qu'en Allemagne, en Italie ou ailleurs, c'est grâce à nos prédécesseurs d'il y a 50 ans. Donc moi, je souhaite que dans 30 ans, dans 40 ans, nos enfants puissent dire « Merci papa, merci maman, j'ai de l'électricité pas chère grâce à vous ». Et donc, c'est des investissements majeurs dans le nucléaire, 6 nouveaux réacteurs nucléaires. C'est des investissements majeurs dans ce qu'on appelle l'éolien offshore, l'éolien marin, avec derrière des filières industrielles qui produisent. Donc, il faut équilibrer tout ça, du nucléaire, de l'éolien marin, du terrestre également, solaire, éolien, sans doute moins qu'initialement prévu.
Moins qu'initialement prévu.
Oui, on électrifie moins.
On est quand même un peu moins dans cette logique-là. On est bien d'accord.
Un peu moins, mais parce que...
Mais pourquoi
consomme...
Parce qu'en fait, finalement, on a beaucoup investi là-dessus et que ça marche moins bien.
Moins d'électricité qu'on avait prévu, c'est vrai. On a des voitures électriques vendues en France, quand même un peu moins que prévu. On électrifie nos logements qui permet de moins polluer, mais moins que prévu. Et donc, on va annoncer aussi avec le Premier ministre un grand plan d'électrification pour qu'à la fois on puisse investir dans l'offre, comme on dit, mais aussi investir dans la
demande. Vous allez le faire quand, ça?
C'est vraiment une question de jours pour la programmation pluriannuelle de l'énergie et de semaines pour le plan d'électrification. On veut consulter tout le monde.
Donc, on va encore faire des choses quand même dans les mois qui viennent.
Mais bien sûr, le monde n'attend pas. On l'a vu, le monde, il est aujourd'hui à la fois extrêmement risqué, bouleversé, il va à 100 à l'heure. Moi, je souhaite que la France...
Donc
aussi,
les mois qui viennent ne vont pas être inutiles sur le plan politique.
Non, j'espère que non. En tout cas, nous on va tout faire pour travailler, mais surtout produire des résultats.
Merci Roland Lescure d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes le ministre de l'économie. Je reprécise d'ailleurs que vous avez bien dit que cette perspective de demander aux Français de payer double leur ticket de métro ou de bus...
C'est non.
Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les matins, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Roland Lescure, le ministre de l'économie, était mon invité à l'instant. Emmanuel Macron, vous vouliez lui dire un mot, monsieur le président?
Oui, bonjour à tous. Salut mes fans. Salut. Oui, pour vous, je remets les lunettes de beau gosse. Hein. Même si j'en ai plus besoin, vous avez vu. Malheureusement, je suis guéri. Voilà, c'est le problème. C'est con parce que j'avais pris une popularité de ouf. Je vous fais la confidence, Apolline, ce matin. J'ai failli me remettre du tabasco dans les yeux.
Mais non.
On pourra les remettre.
Bon. Alors, monsieur le président, un mot sur Roland Lescure.
Écoutez, je tenais à saluer Roland, c'est mon gars solide, hein, sur qui je peux compter, mon gars qui va faire disparaître la dette. Hein, mon Roland, hein, t'as un an pour nettoyer le bordel. Oh, ça va, c'est 3 milliards d'euros à trouver. C'est pas non plus mission impossible.
Hein. Mission impossible, je l'ai, rapport aux lunettes. Ça paraît quand même ambitieux, hein, franchement.
Entre vous et moi, Simon Roland n'arrive pas, c'est pas très grave, hein, comme d'hab, on mettra tout sur le dos de Bruno Le Maire. Hein. Moi, je vais finir mon mandat tranquillou sur l'international, je préfère. Hein, on essayant d'éviter une troisième guerre mondiale, voilà. Ben oui, vous savez, héros du monde libre, sur un CV, ça sonne mieux que le gars, ce qu'il a marqué sur la carte de visite, a réussi à faire augmenter le PIB de 0,83%.
Merci, monsieur le président. Roland Lescure, vous souhaitiez ajouter quelque chose?
Écoutez, là. Écoutez, la première chose à retenir, nous avons des bons chiffres. Les chiffres que vous sentiez. On est passé de 0,7 à 1,9%. 1,9%, ce sont des très bons chiffres. Et nous avons baissé le prix de l'électricité, il faut le retenir dans la merde. De 9 euros. 9 euros. Non, 9 euros, non, par an. Hein, c'est quand même 75 centimes par mois. Hein, Il faut arrêter dans ce pays de se flageller sur un gamme qui est un verre à moitié vide. Vide, c'est les caisses qui sont à moitié vide. Les caisses sont à moitié vide. Moi, pour récompenser les équipes de Merci, toutes les équipes de Merci, je leur ai dit, on a les bons résultats, je vous donne, vous partez en congé. Voilà. Je leur ai donné 10 minutes de congé. Ils sont partis sur des belles destinations. La machine à café, les toilettes, le distributeur de friandises. Voilà, faut récompenser une équipe.
On sent que vous êtes un optimiste de nature, Roland Lescure. Vous pensez que le gouvernement et vous-même, vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin du quinquennat?
Mais oui, on va tenir. Au moins jusqu'à la prochaine guerre mondiale. Optimiste, voilà.
Ah oui, optimiste, je le sens. Merci, Roland Lescure. Oh, Vincent Moscato arrive. Vous voulez également réagir à la
partie
de Roland
Lescure.
Ah, bonjour Vincent.
Quel stress, super Moscato Show.
Le jour de la poussée, on a le ministre de l'économie des finances. Il débarque, le gosse. Il faut qu'il trouve 3000 milliards de pognon. Je l'ai croisé à l'eau, il cherchait la monnaie, tu vois, la machine à café. Mais je me suis la main, j'ai quand même recolté mes doigts. Tu vois, le mec, il te pique tout, tu vois. Et là, le slip, le portefeuille, j'ai plaqué le slip. Précaution. Les mecs, les patrons à BFM Business, tout plaqué sur la table, ils se cachent, pour le ministre de l'économie partout.
Voilà, franchement.
Ah ben oui, bah attends, on risque le contrôle fiscal, vous verrez. Oui. On fait un pognon de dingue, on risque le contrôle. Pour petit déjeuner, t'as vu, ils ont supprimé toutes les viennoiseries pour faire pitié. Donc ils ont acheté à chez Lidl, ils ont acheté de la margarine et du pain de mie périmé, on dirait du carton. Pitié dans le parking souterrain, plus de bagnole, Unix. La Porsche d'Orelgate, disparu. La Jaguar de Marshall, plus rien. La Bentley de demain, j'ai plus rien. La Rolls Royce, le chiffre, plus rien. T'as vu juste la Fiat Panda de Texel. Et bien sûr, la bétaillère d'Apolline, parce que quand même, il faut qu'elle transporte ses 4 boutas.
Merci, Vincent. Voilà. Ce matin, Marc-Olivier Fogiel, quel plaisir de le retrouver. T'es avec nous pour les titres. Bonjour, Marco.
Eh oui, bonjour Apolline. Super heureux de vous retrouver, Apolline. Vous êtes belle comme un matin de printemps. Hein.
Oh, bah disons.
Oui, sauf qu'on est en février qui pleut. Hein. La vacherie n'est jamais loin. Allez, c'est parti pour les titres. Affaire Epstein. Après avoir publié plus de 3 millions de documents du dossier, le ministère de la Justice américain indique que pour gagner du temps, il ne publiera plus à l'avenir que les noms des personnes qui ne sont pas impliquées dans cette affaire. Et puis, affaire Morandini. Jean-Marc Morandini a annoncé qu'il renoncer finalement à tous ses recours devant la Cour d'appel, devant la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, tous sauf la Cour de récréation. Ils sont très bien là-bas. Et puis élection municipale, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 6 février pour voter aux élections municipales. Et Patrick Balkany souhaitait réagir.
Ah oui, monsieur Balkany.
Voilà, donc je le reprécise, la date limite d'inscription sur les listes électorales, pardon, c'est le 6 février. Hein, sauf si, bien sûr, vous habitez le Valois-Perrin et que vous êtes décédé. Voilà. Alors là, évidemment, vous êtes inscrit d'office sur les listes électorales, ce qui vous permettra de voter par procuration. Alors pourquoi par procuration? Parce qu'à Le Valois-Perret, on est humaniste. On sait très bien que les personnes décédées ont les plus grandes difficultés à se déplacer. Donc, on leur facilite la tâche par procuration.
Merci beaucoup. Merci Marco et merci Patrick Balkany. Nous voulions finir avec un petit salut confraternel à Thomas Soto de la matinale d'RTL. Bah oui, il a été victime d'un grave accident de vélo. Il sera absent de l'antenne pour quelques jours.
Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdais.
Oh, oui.
Et Thomas Soto, remplacé à l'antenne suite à un accident malheureux de vélo. Le vélo qui, disons-le, reste malgré tout le meilleur moyen pour réduire son empreinte carbone. Et vous d'ailleurs, qui êtes sensible à l'environnement, chère Apolline, pourquoi ne venez-vous pas à vélo le matin? Il y a tellement de petites rues sympathiques dans Paris et vous pourriez même peut-être croiser notre ami René au volant de son taxi. René qui, je crois, est en ligne avec nous. Eh,
c'est Gégec, ça me fait plaisir. Je t'entends parler des vélos, par contre, attends, je supporte pas, moi. Ils se croient tout permis, les vélos. Ça me donne l'urticaire quand j'en vois, j'ai envie de lui rentrer dedans, carrément. Ah ben ouais, ouais, je m'en cache pas, hein.
Et je m'en cache pas de lui rentrer dedans, René. Mais écoutez, René, ne changez pas vos habitudes. Vous savez quoi, René? Vous qui ne loupez jamais Apolline le matin, eh bien, je vous envoie sa photo et son itinéraire à vélo.
Merci Nicolas. Bon, ça compte, Lou, qu'on retrouve tous les jours à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Alain,
bravo, bravo. Oh, quel triomphe.
Là, je vais remonter sur mon vélo, va.
Oui, les GG arrivent de 9h à midi en direct.
On s'en fout.
En direct sur RMC, RMC Story. On vous attend au 32-16, ça on s'en fout pas, pour venir commenter toute l'actualité avec les grandes gueules. Aujourd'hui, l'avocate Sandrine Pégan sera des nôtres, tout comme l'agriculteur Didier Giraud et le professeur de philosophie Jean-Loup Bonamy. Les GG, c'est de 9h à midi. On parlera notamment des refus d'obtempérer avec maintenant les policiers qui demandent un durcissement de la loi. C'est plus possible, ça doit être qualifié en homicide volontaire. C'est ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'ils veulent, autant que des refus d'obtempérer. Il y en a toutes les 20 minutes.